France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
La situation à Alep, la deuxième ville de Syrie, la métropole du Nord, est de plus en plus catastrophique sur le plan humanitaire. Assiégée depuis la mi-juillet, les quartiers est rebelles sont entourés par les forces gouvernementales syriennes, soutenues par la Russie, l'Iran et le Hezbollah. Et sur place, la situation pour la population, est dramatique. Coincée entre les forces djihadistes très présentes dans le sud de la ville et les bombardements, souvent à l'aveugle, des aviations russes et syriennes, centrées bien naturellement sur les attentats commis en France ces dernières semaines, notre attention s'était détournée de la situation syrienne. Et pourtant, ce qui se joue à Alep en ce moment et à Manbij aura probablement d'immenses répercussions dans l'avenir, y compris ici en Europe. Nos invités ce matin autour de la table de cette émission, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, Ziad Majed, politologue, professeur des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, et puis en duplex avec nous depuis Metz et les locaux de France Bleu Lorraine Nord, Raphaël Pitty. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes médecin, professeur de médecine d'urgence et vous connaissez parfaitement le terrain pour vous être rendu une dizaine de fois à Alep depuis 2012. 15 fois. La situation humanitaire s'est évidemment grandement détériorée depuis le début du siège, mi-juillet.
C'est exact. De plus en plus, bien évidemment. Et en particulier, j'étais moi il y a à peu près 3 mois au moment de la trêve, où il y avait une situation de joie, de paix retrouvée, où avec une véritable résilience de toute la population de cette zone qui est entre les mains des rebelles, où les magasins rouvraient, les gens se mettaient à cultiver en même temps les jardins publics, etc. Et en même temps, le comité civil organisait, le risque de siège existait déjà à ce moment-là.
Des réserves ont été constituées.
Les réserves. Oui, c'est cela. Je pense qu'il y a peut-être encore pour 2 ou 3 semaines de réserve encore pour la population. Et ensuite, on sera dans une situation catastrophique, véritablement, avec des problèmes d'alimentation pour cette population.
Voilà, ça c'est au niveau de la nourriture, au niveau des soins, au niveau des hôpitaux sur place. Là aussi, c'est dramatique.
Depuis 2012, les hôpitaux n'ont jamais été en paix. Ils sont systématiquement ciblés. 60% des infrastructures sanitaires dans le nord de la Syrie ont été détruites. Et pour ce qui concerne Alep, les hôpitaux étaient devenus clandestins. Et malgré cela, ils étaient ciblés dès lors qu'ils étaient repérés. Donc tout se faisait en souterrain. La partie haute n'était jamais utilisée. Et là, dernièrement, ça a été encore l'objet le week-end dernier où 4 hôpitaux ont été détruits et même le centre de transfusion sanguine d'Alep a été détruit et ciblé dans la même journée. Les cinq structures médicales ont été détruites. Il y a eu une vraie volonté de terroriser la population pour l'obliger à fuir.
Combien de civils en ce moment dans les quartiers est d'Alep, ceux qui sont coupés du monde finalement?
Écoutez, moi j'ai un contact direct avec le comité civil. Le comité civil a toujours évalué à 400 000 personnes. Et puis maintenant j'entends 250 000, 300 000. Pour moi, jusqu'au mois de juin, il y avait 400 000 personnes dans cette zone. Et je pense que le comité civil est assez bien informé de la population puisque c'est lui qui organise au même temps la distribution de l'aide alimentaire.
Raphaël Pitty, comment vous avez pris cette nouvelle de l'instauration des corridors humanitaires dont parle depuis plusieurs jours les Russes et les Syriens, pour vous, c'est peanuts?
Non seulement c'est peanuts, mais c'est révoltant, c'est véritablement une hypocrisie sans nom, c'est terrible. Je suis profondément choqué, profondément révolté, parce que au même temps qu'il y a, c'est ce que je disais, une vraie volonté de terroriser cette population pour l'obliger à partir, et on ouvre ces corridors en leur disant c'est par là que vous devez passer. Mais cette population, j'ai bien vu que c'est une propagande véritablement. On voit des femmes en train de dire enfin vous nous avez libérés, nous sommes entre les mains de l'armée, etc. Nous avons vécu. On est véritablement dans la propagande de type soviétique de cette époque. Alors même que ce que j'ai toujours vu quand je suis allé à Alep, il y avait les gens étaient heureux au fond d'être dans cette zone libérée par les rebelles. Et jamais je n'ai entendu dire cette population qu'elle était maintenue de force dans ces zones-là et qu'elle n'avait qu'une seule ambition, celle de fuir.
Même si probablement la situation est très complexe dans les quartiers même d'Alep, Ziad Majed, ce sont des couloirs humanitaires à sens unique là qui ont été créés. Est-ce qu'on assiste au début d'un scénario à la Homs?
à Alep ? Je pense qu'il faut les qualifier de couloirs non humanitaires. Mmh. Parce que la définition d'un couloir humanitaire, c'est un couloir qui permet qui la circulation dans, les deux sens, dans tous les sens, qui permet surtout le ravitaillement d'une population affamée, assiagée et bombardée, qui permet l'arrivée de secours médicaux. Or là, on est dans une conception complètement différente. Ce que les Russes et le régime Assad souhaitent, après avoir systématiquement bombardé l'infrastructure de la ville, détruit les hôpitaux et les centres médicaux, bombardé les boulangeries et les dépôts de réserve, c'est de pousser la population à quitter, donc de créer une nouvelle crise de réfugiés, de déplacer des centaines de milliers de Syriens. Et,
pour pouvoir ensuite taper aussi directement sur les rebelles.
Pour pouvoir détruire, peut-être raser la ville, comme c'était le cas à Grozny et l'expérience russe, elle donne des antécédents. Donc, c'est un couloir qui contredit la résolution onusienne du 21 février 2014, qui évoquait la levée des sièges et non pas l'ouverture de couloirs qui créent plus de réfugiés et de déplacés misérables, qui exigeait également le non-usage de la faim comme outil de guerre ou comme arme de guerre. Or, on voit que la stratégie russe et celle du régime Assad, c'est dans chaque région où il y a une opposition assez ferme, notamment dans un centre urbain assez important comme Alep, c'est de détruire l'infrastructure qui permet aux civils de survivre pour pouvoir reprendre la ville.
Donc c'est comme
complètement
Homs
la raser.
Avec les Russes en plus.
C'est comme Homs avec les Russes en plus, sauf qu'à Homs, il y avait moins de monde, les quartiers que contrôlait l'opposition étaient limités à Loir et à certains autres quartiers, tandis qu'à Alep, on parle d'une ville énorme, et les quartiers Est sont aussi, ont une surface très importante.
Les rebelles ont failli ce dimanche casser le siège par le sud-est de la ville, ouvrir un passage dans les faubourgs, mais depuis les forces loyalistes ont repris l'avantage. Hein. Hier, on l'a bien vu, si Alep tombe aux mains du régime, Ziad Majed, la guerre change totalement de physionomie.
Oui, juste un tout petit commentaire avant. Je pense que ce qui s'est passé dimanche 31 juillet est très important, parce que ce n'était pas seulement une opération militaire. Il y a eu toute la matinée des manifestations dans les quartiers est d'Alep, en soutien de l'opposition, qui nous rappelait le début de la révolution syrienne en 2011, réclamant la chute du régime, les libertés, avec le drapeau de l'indépendance syrienne, et non pas les drapeaux noirs de certains groupes islamistes ou d'autres formations.
En même temps, il y en a maintenant aussi dans dans le sud de ces quartiers est.
Des combattants, on peut en parler. Et puis il y a eu l'après-midi une campagne dans laquelle la population d'Alep a brûlé des pneus pour créer un écran au-dessus de la ville.
Pour les avions, pour les bombardements.
Pour que les bombardements russes et assadiennes soient moins précis sur les hôpitaux, sur les habitations civiles et sur les combattants. Ça montrait un soutien de la société civile alepine à leurs enfants qui se battent pour briser le siège de la ville. Et puis, il y a eu l'assaut. Évidemment, dans cet assaut, il y a toutes les forces de l'opposition. Donc, il y avait des islamistes, il y a l'ancien front Al-Nusra, et il y a les brigades de l'armée libre et les brigades locales. Ils ont
Il y a aussi Rahr al-Sham, il y a plusieurs.
Il y a plusieurs, il y a 23, il y a 23 formations islamistes et non islamistes.
Qui arrivent aussi de l'extérieur d'Alep,
qui viennent de Idlib et qui viennent de la campagne, qui ont essayé de briser le siège qu'impose Hezbollah, le régime syrien, les Russes, les Iraniens, les chiites irakiens et les Hazaras afghans. Ils ont pu progresser les deux premiers jours. Puis je pense que la puissance de feu du régime et de l'aviation russe a fait qu'aujourd'hui, l'offensive peut-être ne progresse plus. Mais ce n'est pas un tournant décisif, mais un tournant majeur de quoi que ce soit le résultat de l'offensive.
Les habitants et les militants de l'armée syrienne libre vont être obligés de s'allier avec les islamistes, Ziad Majed ?
Non, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de s'allier ou de ne pas. Les islamistes font partie de la réalité de la société syrienne et de toutes les sociétés du Moyen-Orient. Ce n'est pas une insulte de dire que ce groupe-là est islamiste. Ici, en France ou en Europe, il y a des conceptions qui ne collent pas aux réalités et aux logiciels qu'il faut adopter. On distingue islamiste et djihadiste. Un islamiste, c'est quelqu'un qui croit que l'islam est sa référence. Il est musulman, pieux, et il se bat pour une cause reliée à un territoire national avec l'islam comme référence. Les djihadistes, par contre, qui sont les problèmes même des islamistes et des non-islamistes des sociétés musulmanes en général, sont ceux qui ne croient pas aux luttes territoriales, aux causes temporaires. Ils sont pour une lutte qui va au-delà de la territorialité. Ils sont prêts à se battre partout dans le monde pour une cause reliée à l'internationalisation du djihad. Donc Daesh, par exemple, ou Al-Qaïda avant, on ne peut pas considérer qu'ils sont concernés par des luttes syriennes ou irakiennes. Ils peuvent jouer sur le fait qu'il y ait des conflits dans ces pays-là pour recruter. Ils peuvent contrôler un territoire, mais ils vont au-delà de ce territoire. Tandis que les islamistes syriens ne se sont jamais battus et ne sont jamais concernés par des luttes qui sont derrière ou au-delà du territoire syrien. Ils se battent en Syrie et ils sont les enfants, les fils des villages et des villes qui défendent leur famille et qui défendent leur survie, tout simplement.
Général Dominique Trinquant, Ziad Majed nous le disait à l'instant, le logiciel occidental ne marche pas très bien pour comprendre la situation en Syrie. On le voit dans la stratégie militaire occidentale.
Mais d'abord, je voudrais remettre les choses en perspective, parce qu'on parle d'Alep comme si Alep était une ville défendue par les islamistes contre le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est faux. Il y a toute une partie de Alep qui est, depuis 4 ans, et on parle d'un siège. Donc c'est un siège de quartier. Donc c'est des quartiers contre des quartiers. C'est la première chose que je voudrais dire. Deuxièmement, je voudrais rappeler qu'Alep, l'enjeu de Alep est considérable. Considérable parce que c'est la deuxième ville syrienne. Et considérable parce que c'était une ville dans laquelle il y avait une multitude de communautés. On oublie un peu parler de la communauté chrétienne. Je discutais il n'y a pas longtemps avec des religieux qui sont repartis à Alep. Hein, qui sont à Alep et qui ont décidé de rester à Alep avec la population. Beaucoup de ces chrétiens sont partis, mais d'autres sont restés. Donc l'enjeu d'Alep, c'est pas simplement
la lutte contre les djihadistes.
Voilà, c'est une vision multiculturelle, multireligieuse de la Syrie qui existait depuis des millénaires et qui est en train d'être détruite. Et c'est une vision d'une partie de quartiers d'Alep qui sont du côté du gouvernement de Bachar al-Assad, parce que les minorités pensent qu'ils sont mieux défendus par Bachar al-Assad. C'est leur choix, hein. Et puis des islamistes qui sont dans d'autres quartiers. Donc c'est cette lutte-là. Premier point. Deuxième point. Tout ceci se passe très près de la frontière turque. Et la clé aujourd'hui, c'est le ravitaillement, les zones de ravitaillement. Et le troisième point que je voudrais souligner, c'est que naturellement, et le médecin a eu raison de le rappeler en introduction, l'enjeu des combats urbains, ce sont les populations. Et lorsqu'on parle bien sûr de couloirs humanitaires, ce ne sont pas des couloirs humanitaires, ce sont des couloirs d'évacuation. Parce que pour prendre une ville, il faut retirer la population qui ne combat pas, de façon à pouvoir laisser libre cours à la violence, qui est la guerre, parce que la guerre, c'est la violence, et laisser libre cours au combat entre les islamistes et le gouvernement de Bachar al-Assad, soutenu par tous les mouvements dont on parlait, les Russes, etc. Et donc là, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire pour combattre, il faut évacuer la population, alors avec tous les malheurs que ça représente, parce que vision stratégique, les négociations à Genève. Il faut arriver aux négociations à Genève
avec
en position de force.
C'est ce voilà. que joue la Russie.
Et c'est ce que joue évidemment. La Russie, c'est ce que joue Bachar al-Assad et c'est ce que jouent les islamistes de l'autre côté. Parce qu'ils ont raison. S'ils perdent Alep, que vont-ils négocier quand ils seront à la table de négociation ?
Ziad Majed.
Oui, alors trois commentaires rapides. Premièrement, les Russes et le régime Assad ne sont jamais souciés du destin de la population civile. Cela fait 4 ans qu'Alep est bombardé avec l'aviation, avec les missiles Scud. Il y a des dizaines de milliers de morts et de blessés de civils dans la ville d'Alep.
Et des centaines en Syrie depuis, des centaines de
milliers. Des centaines de milliers en Syrie, tués par l'aviation, par les barils explosifs. Il y a eu plus de 18 000 barils explosifs jetés sur la population civile en Syrie. Donc la question de protéger une population ou de l'évacuer est le dernier souci du régime Assad et des Russes. Par contre, ils veulent un changement même, un nettoyage ethnique, si vous voulez, qui modifie la démographie de la ville d'Alep. C'est vrai que les quartiers ouest de la ville qui sont contrôlés par le régime, il peut y avoir des gens qui soutiennent le régime. Il n'y a pas un régime dans l'histoire du monde, y compris les plus autoritaires, qui n'avait pas une certaine base de soutien. Il est vrai aussi que les minorités en Syrie, comme ils étaient en Irak, comme ils peuvent l'être ailleurs, parfois optent pour la stabilité et ne se soucient pas nécessairement du sort de la majorité, parce qu'il y a des fantasmes, parce qu'il y a des illusions, parce qu'il y a des peurs et parce que surtout ces régimes-là qui sont en place depuis 50 ans ont tout fait pour briser la citoyenneté et pour renvoyer les gens à leur identité primaire et essentialiste, ce qui fait qu'il y ait plein de confusion à chaque fois que la dictature est menacée. Est-ce que vaut mieux rester sous un dictateur même s'il massacre la majorité mais il nous protège, ou bien il faut changer.
Donc, et ça, c'est tout le problème de la coalition finalement.
Le problème du Levant. du Levant. Et par rapport au conflit, on ne peut pas le simplifier et dire c'est entre les islamistes et le régime. C'est entre une grande partie de la population syrienne, dont il y a des islamistes et des non-islamistes. L'armée syrienne libre, qui a été formée en 2012 et qui n'a pas reçu le soutien nécessaire, n'était pas islamiste. Ils sont pieux, ils sont conservateurs parfois, mais l'idéologie n'est pas le point de départ de cette lutte. C'est une lutte d'une majorité d'un peuple contre un régime qui est en place depuis 1970.
Et face à cette situation, les États-Unis et plus largement l'Occident ne sait pas comment se positionner, soutenir les rebelles, au risque de soutenir aussi les djihadistes qui sont...
Non, les djihadistes ne font pas partie des rebelles, si on parle de Daesh. Ils sont contre les rebelles.
Je voudrais rappeler que les combats se déroulent au sol. Il s'agit d'avoir des armées capables de combattre. Or, l'armée syrienne libre, depuis 4 ans, tout le monde l'attend. Elle est très très peu présente. Par ailleurs, un certain nombre de mouvements qui ont été soutenus par les Américains, financés par les Américains, sont passés avec armes et bagages du côté des djihadistes. Hein. Je voudrais rappeler aussi simplement...
c'est ce que veut dire Ziad Majed.
Ouais, que je voudrais rappeler simplement qu'il y a un phénomène particulier quand même qui existe avec Raqqa, la Syrie et le califat. C'est que c'est un mouvement djihadiste qui a une racine territoriale. C'est le premier mouvement qui a déclaré le califat.
Daesh, vous parlez de Daesh spécifiquement.
Et donc c'est un cas particulier. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se trouve ? On se focalise sur Alep, mais il y a eu des combats bien ailleurs. Hein, et il y a des alliances mouvantes entre des mouvements djihadistes qui sont puissants parce qu'ils ont des financements, parce qu'ils ont de l'armement et qui sont... en particulier très lié avec les mouvements qui franchissent la frontière turque, dont on revient au point que je citais tout à l'heure, l'alimentation par la Turquie.
D'où l'importance aussi d'ailleurs de la bataille de Manbij. Hein,
ouais, exactement, la bataille de Manbij dont on ne parle pas aujourd'hui, qui est sur la frontière et qui permettait, souvenez-vous de Kobané, où les chars turcs regardaient ça et laissaient faire. Donc il y a un vrai sujet là-bas, et qu'on ne se trompe pas, je ne dis pas que le gouvernement syrien se préoccupait de la population, je dis que l'enjeu des combats en Zudurmen, c'est la population. Et que la population gêne la manœuvre. Pardonnez-moi d'être un peu cru sur ce truc-là. Et pour gêner la manœuvre, la meilleure façon, c'est de l'évacuer pour pouvoir faire la manœuvre à l'intérieur de la ville.
On va redonner la parole pour terminer à Raphaël Pitti en direct de Metz avec nous. On parlait de ces 18 000 barils d'explosifs qui ont été, d'après Ziad Majed, lancés sur la population un peu à l'aveugle sur l'échelle de la Syrie tout entière. On parle également d'armes chimiques qui reviennent dans le débat depuis plusieurs jours, oui. Raphaël Pitti.
C'est exact. Du chlore a été utilisé. Ouais. Je suis en contact en permanence puisque nous avons formé plus de 7000 personnes dans le nord de la Syrie. Et donc cela fait maintenant par WhatsApp, nous avons un lien permanent avec l'ensemble des structures médicales qui continuent à travailler dans le nord de la Syrie. Et donc j'ai des photos, j'ai des rapports médicaux de l'utilisation de chlore, en tout cas d'intoxication par le chlore. Ça c'est sur la zone de Sarakeb en particulier, qui avait déjà été il y a quelques années, il y a 3 ans, on y avait fait exploser du sarin.
Mais par l'hélicoptère, moi,
par hélicoptère. Alors là, j'entends ce qui est dit. L'analyse de Ziad Majed est pertinente. Par contre, je suis toujours personnellement, ça m'insupporte de voir cette confusion entre djihadistes et islamistes. Et on utilise islamistes et djihadistes en permanence. Et Ziad Majed vient de le dire. Les islamistes, ils ont et ils s'appuient sur des valeurs qui sont des valeurs de l'islam, comme nous pourrions avoir, nous, une démocratie chrétienne qui s'appuie sur des valeurs qui sont les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres. Moi, je suis chrétien. Ça fait 15 fois que je vais en Syrie. Je n'ai jamais eu de problème en ce qui concerne ma sécurité, alors même que je suis dans des zones qui sont des zones de combat. Avec mes collègues, nous travaillons comme médecins. Ce qui m'insupporte, c'est ça, c'est le fait. Il y a d'un côté, bien séparé, Daesh, et dire Daesh simplement, de l'autre côté, les islamistes. Quant à l'armée syrienne libre, elle a été abandonnée par les Occidentaux, dès le départ. Dès lors qu'on a bien senti que la révolution allait durer, que cette révolte allait durer plus de 6 mois, comme l'avait prétendu Fabius, on a fini par comprendre qu'il fallait la faire financer par d'autres. Et on a fait financer l'armée syrienne, on a fait financer les combats des rebelles par l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont des États islamistes. Et ils ont, bien évidemment, préféré financer les groupes islamistes qu'une armée syrienne libre qui se voulait démocratique et laïque, en quelque sorte. Or, nous avons une part de responsabilité dans l'abandon, justement, de cette armée syrienne libre. Et quand j'entends le général dire « on l'attend toujours, cette armée syrienne libre », eh bien, nous en avons la responsabilité parce que nous l'avons abandonnée.
Une part de responsabilité, effectivement, et aussi un défaut de vision, une distorsion parfois quand, effectivement, d'ici, on regarde la situation en Syrie et en Irak, et puis dans tout le Moyen-Orient. C'est ce que disaient nos invités ce matin. Merci Raphaël Pitti, médecin, vous étiez en ligne avec nous depuis Metz dans les studios de nos amis de France Bleu Lorraine Nord qu'on remercie également. C'est Nicolas Cluten qui s'est chargé ce matin de la liaison technique à Metz. Merci Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française à l'ONU, et puis Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris et auteur en 2014 de Syrie, la révolution orpheline, publié chez Actes Sud. Il est 8h sur France Culture.